Merci pour toutes ces informations. Retour à notre session, à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes cette semaine en compagnie de Sadi Kaba, journaliste, observateur de l'actualité, notre ami Sadi Kaba. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous avec vos messages, bien sûr. Mais tout de suite, quelques mots sur l'actualité française. Avec une mauvaise nouvelle, une de plus pour l'économie française. Justement, impossible de réduire les déficits publics autant que prévu. Pas d'économie de 21 milliards l'année prochaine. L'actualité française, c'est aussi la rentrée scolaire cette semaine pour 12 millions d'élèves. Et la décision de François Hollande de renoncer pour l'instant à livrer le premier hélicoptère de type Mistral à la Russie en raison des actions de Moscou en Ukraine. Le premier des deux bâtiments de projection et de commandement de type Mistral donc devait être livré le mois prochain à la Russie et 400 marins russes se forment depuis le 30 juin à sa manœuvre. Olivier Four.
Depuis des mois, la France faisait l'objet de pressions de la part des Européens, des pays baltes, de l'Ukraine et bien sûr de la part de ses alliés de l'OTAN. Hier, l'Élysée a publié un communiqué qui annonce en une ligne que les conditions ne sont pas réunies pour la livraison du bateau. C'est donc le dernier épisode en date de cette affaire des Mistral pour la Russie. Suspendu, ça ne veut pas dire que les bateaux ne seront jamais livrés, mais c'est une manière pour la France, d'une part, de couper court aux critiques dont elle aurait pu faire l'objet lors du sommet de l'OTAN, et d'autre part, de laisser la porte ouverte en vue d'un règlement avec Moscou sur la livraison de ce bateau si les choses s'améliorent en Ukraine. D'ailleurs, on le voit bien dans les réactions, Washington salue une sage décision alors que le ministre russe de la Défense disait dès hier soir que suspendre la livraison n'était pas une tragédie pour Moscou. Enfin, à ce stade, la formation des équipages russes ne semble pas être remise en cause. Ils sont actuellement 400 à Saint-Nazaire et devaient prendre possession de leur bateau début novembre.
Contrat ni rompu ni suspendu, a dit François Hollande mercredi. Suite d'une semaine d'actualité, le juge français Marc Trévidic, chargé d'enquêter sur la mort des moines de Tibérine assassinés en 1996 en Algérie, donc pourra finalement se rendre dans ce pays en octobre. Marie-Pierre Olfant.
Sauf nouveau coup de théâtre, Marc Trévidic va donc pouvoir se rendre à Alger les 12 et 13 octobre comme il le demande depuis des mois. Le magistrat a déjà reporté deux fois cette année son déplacement, faute d'avoir reçu une invitation officielle de la part des autorités. L'accord de principe lui avait pourtant été donné en novembre 2013 pour assister à l'exhumation des têtes des moines enterrés à Tibérine. Mais en juillet, Marc Trévidic, généralement discret sur le sujet, avait fini par faire part de son agacement sur une radio française, déclarant « Il va falloir savoir si on se moque de nous ». Difficile de dire ce qui a concrètement motivé à chaque fois ces reports. Est-ce parce que les autorités algériennes souhaitaient entendre deux témoins des services secrets français comme l'a suggéré au début de l'été le journal El Watan? La situation semble en tout cas aujourd'hui s'être débloquée. Le ministre algérien de la Justice a confirmé hier en marge d'une conférence de presse que le juge français était autorisé à assister à l'expertise et à l'autopsie des têtes des moines qui seraient menées par des experts algériens. Le magistrat algérien en charge de ce dossier devrait lui se rendre en France le 21 octobre.
Sept jours en France.
Et merci encore de votre fidélité, Sadi Kaba. Un mot de commentaire sur ce Mistral qui reste à quai, mais on ne sait pas trop quand il sera livré finalement, parce qu'il sera livré, c'est sûr.
La contestation de la décision française a été plus virulente de la part des syndicats que de la part de Moscou. Parce que Moscou, les syndicats à Saint-Nazaire ont estimé que c'était une très mauvaise décision parce que c'est un deal, c'est une affaire que la France a réalisée. Ces Mistral vont être vendus à plus d'un milliard d'euros, les deux Mistral.
Alors il faut rappeler que c'était une commande qui était faite sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
La présidence Sarkozy et dans le contexte actuel de morosité en France, avec la possibilité de créer des emplois, la remise en cause de ce contrat serait un problème franco-français aussi. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il y a cette ambiguïté, parce qu'on dit que les contrats ne sont ni maintenus ni rompus. Donc il y a une ambiguïté qui permet à la fois de satisfaire les alliés, puisqu'il y a eu des pressions des alliés, notamment des pays membres de l'OTAN, les Britanniques et les Américains étaient en première ligne pour critiquer la France, mais il y a aussi le souci de préserver l'emploi. À mon avis, lorsque l'orage sera passé, ces Mistral vont être remis aux Russes, et comme ça le laisse penser, puisque la formation n'a pas été remise en cause, les Russes qui doivent piloter ces Mistral continuent leur formation comme si de rien n'était.
Le juge français Marc Trévidic va pouvoir partir en Algérie pour enquêter sur l'assassinat des moines de Tibérine en 1996.
Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça fait quand même longtemps qu'on attend de faire toute la lumière sur cette affaire. Je crois qu'il est dans l'intérêt des Algériens et de la partie française aussi, puisque l'Algérie a été accusée, en un moment, l'hypothèse qui a été avancée, c'est celle d'une bavure de l'armée algérienne au cours de laquelle ces moines ont trouvé la mort, ce qui a toujours été démenti par l'Algérie. Donc, à mon avis, pour lever toute ambiguïté, il vaut mieux laisser l'enquête se poursuivre et il vaut donner aux juges les moyens. Et là, on voit qu'il y a une coopération franco-algérienne qui se met en place, puisque son homologue algérien va venir en France aussi, et les expertises vont être conduites par les spécialistes algériens. Le juge va assister. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de faire toute la lumière, qu'on sache ce qui s'est véritablement passé. Ça va permettre d'apaiser au moins les familles et aux familles des moines de faire leur deuil.
13% de popularité de François Hollande aujourd'hui, 13%, c'est le plus mauvais score depuis que le sondage existe quasiment.
Ah oui, non, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Est-ce que moins 14 points pour Manuel Valls.
Valls, qui était populaire, qui était à plus de 60% d'opinion favorable, a dégringolé. En si peu de temps, il a perdu 14 points entre deux sondages. C'est la preuve qu'il y a des difficultés et la conjoncture.
Alors, un secrétaire d'État de Thomas Thévenoud qui démissionne parce qu'il a, semble-t-il, un problème avec sa feuille d'impôt.
L'épisode Montebourg n'est pas encore totalement consommé. Et les Isani au sein de la gauche. Donc, il y a aujourd'hui une illisibilité de l'action politique des socialistes.
Jusqu'à quand tiendra le président, s'interrogeait Le Figaro hier.
Cette question est pertinente. Mais Hollande a été élu pour 5 ans. Donc, en principe, c'est au terme de ces 5 années qu'il va solliciter le suffrage des électeurs français. Et en démocratie, c'est à la fin du mandat que la sanction est prononcée. Jusqu'ici, Hollande a plus brillé à l'international avec le Mali, la Centrafrique, d'autres sujets internationaux que sur le plan intérieur. Et il faut dire que là, la conjoncture intérieure et la conjoncture européenne ne l'ont pas aidé. C'est pour cette raison qu'il faut peut-être espérer qu'il y ait un retour de l'activité économique pour que la morosité recule et que les Français soient plus satisfaits de l'action du gouvernement en place.
Une semaine d'actualité.
C'est dit qu'il nous faut revenir sur l'épidémie d'Ebola alors qu'elle s'étend en Afrique de l'Ouest. On en parlait tout à l'heure. Elle serait contenue en République démocratique du Congo. Correspondance mardi de Léa Lisa Westerhoff.
Circonscrite, mais pas sous contrôle, voilà ce qu'on peut dire de l'épidémie telle qu'elle évolue en République démocratique du Congo. La zone touchée par Ebola ne s'est pas étendue, mais la maladie elle-même continue de faire de nouvelles victimes. 5 nouvelles infections selon le ministère de la Santé et 31 morts, dont une partie est décédée ces derniers jours. C'est le signe que des personnes qui avaient été infectées n'ont pas pu être sauvées, faute de prise en charge à temps. Les villages où se sont déclarés les premiers cas sont assez isolés, avec des structures de santé extrêmement basiques. Le temps d'organiser une prise en charge laisse aussi le temps à la maladie de progresser. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir. Mais le ministère de la Santé se veut rassurant et rappelle que l'épidémie, pour le moment, se limite à la zone de Boende, à plus de 800 km de la capitale Kinshasa. Il n'y a pas de nouveaux cas déclarés en dehors de cette zone d'un peu plus de 100 km². Mais le vrai défi reste la prise en charge. Les 3 localités où il y a des personnes contaminées et des cas suspects sont éloignées les unes des autres, avec très peu de personnel médical bien formés. Selon des sources jointes sur place, les mesures de protection ne sont pas mises en place avec suffisamment de sérieux pour le moment. Dans certains hôpitaux, une personne infectée continue par exemple à recevoir de la visite, ce qui est particulièrement dangereux.
Après l'apparition d'un cas de fièvre hémorragique au Sénégal, l'inquiétude monte dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas encore touchés par le virus, comme le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire ont décidé récemment de fermer leurs frontières. Et dans ce dernier pays, les mesures de prévention se multiplient. Reportage en Côte d'Ivoire, donc dans un centre d'appel à Abidjan de Maureen Grisot, mercredi.
Il est interdit de consommer la viande de brousse, il est interdit de serrer la main à une tierce personne, de faire des accolades. Les 9 téléopérateurs n'ont pas une seconde de répit. Tous les clients mobiles du pays reçoivent des SMS de prévention plusieurs fois par semaine, les encourageant à appeler le 143 en cas de doute sur Ebola. Si ce numéro vert a été mis en place par le ministère de la Santé en 2011, le standard explose depuis quelques jours. 3000 appels sont traités au quotidien. Aïcha Gouin est la responsable du centre.
Il y a une certaine psychose parce que se disent peut-être qu'on leur dit pas tout, peut-être qu'effectivement il y a des rumeurs d'Ebola. Donc quand elles appellent, c'est pour qu'on les rassure, pour qu'on leur donne les informations vraies. Et apparemment, ça porte.
Donc tu as appelé pour savoir.
Les agents s'entassent dans un petit bureau sans fenêtre du ministère de la Santé, mais plus pour longtemps. Ils vont bientôt s'installer dans les locaux de l'Institut National de Santé Publique et recruter, grâce au financement d'une entreprise ivoirienne. Tous ont reçu une formation sur Ebola et deux personnes de l'Institut d'hygiène publique sont venues en renfort, même si parfois les appels ne méritent pas tant d'expertise, comme l'expliquent Sosten et Baligouzou.
Pour nous insulter, on crie dans l'oreille, soit on met la musique, comme ça on nous prend le temps alors qu'il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps.
Il y a une fille qui a appelé, qui disait que c'était fait mort par une souris, qu'est-ce qu'elle devait faire. Et puis il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait consommer du criquet.
Reportage donc de Maureen Grisot à Abidjan dans un centre d'appel qui veut rassurer la population à propos de cette fièvre Ebola. Sédic, inquiétude, qu'on comprend d'ailleurs.
Oui, on peut comprendre. Et l'ennemi de cette lutte contre Ebola, c'est la psychose qui s'est installée et qui est souvent alimentée par des mesures contre-productives.
Alors ça, c'est un sujet que vous connaissez bien parce que je rappelle que vous avez, parmi les livres que vous avez écrit Le Niger face au sida, c'est autre chose.
Mais tout à fait.
Et faiblesse de la stratégie nationale contre la pandémie.
Absolument. Là, je parle aussi des informations précises, la nécessité de donner aux malades et à ceux qui veulent se protéger des informations précises. Et dans le cas d'espèces aussi, quels sont les modes de contamination, à quelle période. Parce qu'il ne s'agit pas de penser qu'aujourd'hui, quelqu'un qui atterrit à l'aéroport de Conakry ou qui atterrit à l'aéroport de Dakar va forcément être contaminé par la maladie. Il faut avoir été en contact avec des gens qui sont porteurs de la maladie et qui sont dans une phase contagieuse, parce qu'on peut avoir attrapé la maladie et ne pas être dans une phase contagieuse. Un spécialiste a expliqué ici quels sont les différents, notamment la salive, les vomissements, la diarrhée, etc. Et dans le cas de l'Afrique, ce qui a le plus favorisé, ce sont les rites mortuaires. Vous savez, quand une personne est enterrée, on fait le bain mortuaire, l'ensemble de la famille touche le corps, etc. Donc, il y a ces facteurs-là un peu communautaires qui ont favorisé la propagation de la maladie. Il faut aujourd'hui donner la bonne information aux gens, dire que c'est pas la peine de céder à la panique et c'est pas la peine aussi de procéder à des mesures qui n'apportent rien du tout, puisque l'OMS par exemple a dit que la fermeture de frontières ou la suspension des vols n'est pas une solution.
Et il ne faut pas non plus stigmatiser les malades.
Il ne faut pas non plus stigmatiser les malades parce que ils n'ont pas choisi d'être malades et ils ne sont pas forcément contagieux à partir du moment où on les met en quarantaine. Ça peut être. Et il y a un élément qui a été souligné dans le reportage qui paraît important, c'est que dans la lutte contre Ebola, le développement est un facteur qui réduit les chances. Parce que plus les gens se déplacent, plus il y a des facilités de développement et plus il y a des risques de contamination, des risques de progression de la maladie. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique de contrôle de la maladie, de contenir la maladie pour éviter qu'elle se généralise dans la sous-région Afrique occidentale et Afrique centrale.
Avec un gros effort de prévention, évidemment.
C'est le plus gros effort puisque pour l'instant, la maladie n'a pas de médicaments.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons pour le Mali, Sédikaba. Mardi, un attentat a eu lieu contre des soldats de la MINUSMA. Il a fait des victimes parmi les casques bleus. Et il y a donc un an, le 4 septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment et devenait officiellement le nouveau président malien. Son élection avait suscité énormément d'espoir après une période de grandes difficultés pour les Maliens. Le Mali, je rappelle, avait connu un coup d'État, puis avait été divisé en deux, sa moitié nord étant contrôlée par des mouvements djihadistes. Un an plus tard, premier bilan dressé par notre correspondant Serge Daniel, jeudi.
La ville de Kati ne fera plus peur à Bamako avait promis il y a un an le président Ibeka, promesse tenue. Et ce n'était pas gagné d'avance. Les membres de l'ex-junte qui avaient fait de la ville de Kati leur fief et qui rêvaient de continuer à faire la pluie et le beau temps ont été mis hors circuit. D'autres, comme leur chef Amadou Sanogo, présenté devant la justice, inculpé et arrêté. Ibeka avait également dans sa profession de foi déclaré l'an 2014 l'année de lutte contre la corruption. Il y a certes eu des arrestations, des dossiers qui dormaient dans des tiroirs transmis à la justice. Le président a refusé d'intervenir sur deux gros dossiers par exemple. Mais la lutte anticorruption n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Élu, plutôt plébiscité il y a un an, Ibeka avait annoncé le changement. Les attentes sont nombreuses. Il y a également de gros problèmes de communication de l'équipe au pouvoir. Sur plusieurs dossiers, par exemple, l'État n'est pas arrivé à convaincre une partie de la population malienne. Par ailleurs, la situation à Kidal et dans le Nord reste toujours un caillou dans la chaussure du gouvernement, malgré les discussions en cours à Alger.
Suite d'une semaine d'actualité, parlons de la situation au Nigeria maintenant et de la prise de Bama par Boko Haram. Bama, à 75 km de la capitale de l'État de Borno, une ville de quelque 250 000 habitants. Nicolas Champeau, mercredi.
1000 soldats nigérians ont été positionnés à Bama au moment de l'attaque contre la caserne militaire de la ville, lundi matin à l'aube. C'est tout du moins ce qu'affirme le sénateur de Borno Centre, Ahmad Zana. Il est catégorique, tous les soldats ont pris la fuite. Boko Haram contrôlerait donc les villes de Gwoza et de Bama et menace désormais Maiduguri, la capitale de l'État de Borno.
Bama est juste à 75 km de Maiduguri, donc les insurgés sont à 1h30 de la ville. Et tous les habitants des villes et des villages entre Bama et Maiduguri ont fui pour gagner Maiduguri.
L'aide des pays voisins du Nigeria et de la communauté internationale n'a pas permis de contrer les ambitions de Boko Haram. Et le gouvernement nigérian en porte l'entière responsabilité, charge le sénateur Zana, membre d'une faction dissidente du parti PDP au pouvoir.
À moins que les membres de l'appareil sécuritaire nigérian fassent montre de sérieux, on n'aura pas de résultat. On n'arrivera à rien tant que régneront l'hypocrisie et des gens qui versent dans le complot. Le Nigeria doit être sérieux et prendre à bras le corps le problème. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on joue autant avec la vie des gens.
L'attaque contre Bama a gonflé le nombre de déplacés. La plupart auraient regagné Maiduguri à pied.
Et à noter la situation humanitaire critique, pour le moins, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Des milliers de personnes qui fuient les exactions de Boko Haram sont bloquées à la frontière. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sedi Kaba, dont le dernier livre, d'ailleurs, j'ai oublié de donner le titre, s'intitule « La junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011 ». On parlera du Niger tout à l'heure. Le Mali. Un an après, l'investiture d'Ibeka.
Je crois que la déception est à la mesure des espérances que l'élection d'Ibeka a suscité. Ibeka a été quasiment plébiscité, comme il a été dit dans le reportage. Il a obtenu 77%. Donc, il avait une victoire confortable qui lui permettait de réaliser des changements. Mais plutôt que de réaliser les changements, de tenir les promesses électorales, on s'est aperçu que la Gabegie s'est installée. Son fils est devenu président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'avait aucune expertise. Le beau-père de son fils est devenu président de l'Assemblée nationale. On peut citer des exemples. Donc, il y a de ce point de vue un certain nombre de maladresses, pour utiliser cette expression, oui, un certain nombre de maladresses qui ont été commises par Ibeka, sans compter maintenant l'achat de l'avion présidentiel pour 19 milliards, la rénovation du palais de Koulouba. Donc, un certain nombre d'actes qui ont été posés, qui ont déçu les Maliens. Et il y a aussi, parmi le passif de cette première année, la question de Kidal, qui n'est toujours pas réglée.
Oui, il y a eu un attentat, je le disais tout à l'heure, contre des casques bleus dans la région de Kidal.
La question n'est pas réglée et l'armée malienne a subi un revers au mois de mai à Kidal lorsqu'elle a tenté de prendre. Donc, pour l'instant, même si rien n'est encore perdu pour Ibeka, puisqu'il lui reste 4 autres années sur le quinquennat, la première année n'a pas été à la hauteur des attentes de Maliens, on peut le comprendre.
La progression régulière de Boko Haram au Nigeria est inquiétante aussi.
Je pense que c'est beaucoup plus grave qu'au Mali, parce que
prise, Bama,
la deuxième ville de l'État, de Maiduguri, la deuxième ville de l'État de Maiduguri, qui est frontalière avec l'est du Niger, d'où je viens moi-même. Donc, il y a une préoccupation. Pour moi, c'est depuis la guerre du Biafra, la guerre de sécession en 1963, c'est la situation la plus grave que le Nigeria ait connue, parce que c'est l'intégrité du Nigeria qui est menacée. Et aujourd'hui, du fait de l'incurie du pouvoir en place, l'armée du Nigeria, qui est une des armées, sur le papier en tout cas, une des plus puissantes, avec le Nigeria, la première puissance économique du continent devant l'Afrique du Sud, n'arrive pas à faire face à quelques individus au départ, parce que il faut le dire, Boko Haram au départ, c'était un petit groupe qui mêlait à la fois la crapulerie et l'idéologie religieuse, et par la force des autorités du Nigeria, aujourd'hui, c'est devenu une menace sous-régionale, voire planétaire. Donc, si le Nigeria, au lieu plutôt que de se mettre derrière le parapluie du nationalisme, de la souveraineté du pays, n'arrive pas à faire face, il faut qu'il associe les autres pays, notamment le Tchad, notamment le Niger, pour faire face à Boko Haram. On a vu que cela n'est pas impossible, puisque le Tchad a réussi à libérer près de 84 personnes qui avaient été enlevées par Boko Haram. L'armée tchadienne a agi et les a libérées. Donc si le Nigeria ne peut pas y faire face tout seul, il faut qu'il envisage de trouver une solution régionale.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Mamadou Junior Cissé, qui est étudiant en première année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un bonjour à Nestor à Kisangani en RDC. Il écrit: je rends un vibrant hommage à votre invité de samedi dernier avec ses analyses pertinentes sur la face cachée de l'agression de la Libye par l'OTAN. Et aussi la barbarie de l'armée israélienne sur Gaza, fin de citation. Je rappelle que notre invité était Ronnie Broman. Bonjour à Mohamed Al-Mustapha Bamako. Un salut maintenant à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour à Abdoulaye à Meudon, à Juliette, à Moussa et à Mustapha Bari. Et un bonjour à deux auditeurs de Niamey, Sedi Kaba, Mahaman Bachir et Djibo Idé.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons pour le Niger, justement, Sedi Kaba, où les Américains vont déplacer leur base de lancement de drones de Niamey vers Agadez, dans le nord du pays. Correspondance de Washington, signée Anne-Marie Capomaccio, mardi.
Le Pentagone est discret sur le sujet, rien d'inhabituel à cela. Toutefois, des interlocuteurs proches du dossier confirment les préparatifs d'installation d'une base américaine de lancement de drones dans la localité d'Agadez. Aujourd'hui, 120 militaires américains sont stationnés à Niamey et des avions sans pilote opèrent à partir de la capitale. Agadez, au nord, est bien mieux située, dans la mesure où l'objectif est de surveiller la zone considérée comme la plus accueillante pour les groupes mafieux et terroristes et donc la plus dangereuse pour les États, la frontière Niger, Mali et Libye, pays très instable depuis des mois. Dans un entretien accordé à RFI le mois dernier, le chef de l'État nigérien demandait au pays responsable de l'intervention militaire qui a conduit à la situation actuelle en Libye, il demandait à ces États d'assurer, je cite, le service après-vente.
Alors ça, c'est un sujet qui va vous intéresser. Je rappelle que vous êtes donc d'origine nigérienne. C'est dit que, je rajoute aussi à propos du Niger que le président du pays a un nouvel avion désormais. Prix de l'appareil, 20 milliards de francs en CFA, soit 30 millions d'euros. Ça vous inspire? On va commencer par ça, un commentaire.
Je pense que à la fois au Niger comme au Mali, l'acquisition d'un avion n'est pas l'urgence la plus déclarée pour le pays, surtout...
Il paraît que l'avion était dans un très mauvais état et qu'il fallait absolument le changer. Donc.
Que vous évoquez, c'est un argument qui est avancé et qu'on peut recevoir comme qu'on peut contester. Et le Niger a eu comme premier président Diori Amani, qui a été président de 1960 à 1974, et Diori n'avait pas d'avion. Donc,
on peut être président sans avoir d'avion.
Est-ce que c'est tout à fait urgent? Je m'interroge comme une partie de la société civile, même si je comprends aussi les arguments qui sont développés par les autorités disant que c'est exposer le président que de le laisser continuer à voler sur un avion qui a été acheté par Séni Kounti en 1978. Chacun peut apporter son argument à ce débat. Et sur la base le déplacement des drones.
Ah oui, à la base des drones de Niamey vers Agadez, base américaine. Il faut rappeler qu'il y avait une base américaine, qu'il y a des Américains sur place.
Absolument. Les Américains avaient choisi au départ d'installer la base à Niamey parce qu'elle est plus proche de la partie malienne, puisque Niamey n'est pas loin de Gao, par exemple, se situe à 340 km de Niamey. C'était plus facile de le faire à partir de Niamey. Maintenant, comme depuis Serval et depuis l'intervention internationale au Mali, les djihadistes se sont dispersés et se sont pour la plupart réfugiés dans le sud libyen, qui échappe à l'État central, il me semble tout à fait pertinent que la menace vienne désormais du sud libyen. Et comme il a été dit par les autorités nigériennes, il est vraisemblable que ceux qui ont commis les attentats de mai 2013 à Agadez et Arlit soient venus de Libye, parce que c'est là-bas que maintenant se sont réfugiés la plupart des djihadistes. Donc il est tout à fait justifié que le lieu de surveillance soit déplacé de ce côté-là, parce que c'est là que se trouve le sud libyen, Sebha n'étant pas loin de Agadez. À partir de là, on peut mieux surveiller les djihadistes et éviter justement qu'ils se reconstituent pour pouvoir attaquer. Parce que comme vous savez, l'État libyen s'est quasiment désintégré aujourd'hui. Il ne contrôle ni Tripoli, ni Benghazi, a fortiori le sud,
surtout aujourd'hui,
et les autres régions.
Merci Sadiq Kaba. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres. Je cite le dernier en date, La junte militaire et ses 10 affaires secrètes, 2010-2011. Et je peux dire qu'il y en aura un prochain dans les mois qui viennent. Vous viendrez évidemment en parler. Merci Sadiq.
C'est un plaisir.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Rendez-vous demain pour notre magazine dominical. Idée, nous parlerons de la folie, de l'éloge de la folie. Je trouve que ça va bien avec l'actualité. L'éloge de la folie, le chef-d'œuvre d'Erasme avec un spécialiste latiniste, professeur très enthousiaste, Jean-Claude Saladin. Rendez-vous demain à 17h10 et 18h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.